Arabia, and I left right here at my school. I took his plane to Colombia so I could sail at my school. Where am I supposed? Where am I supposed? Where am I supposed? Where am I supposed? Radio Libertaire 89.4, dans quelques instants, l'émission Un peu d'air frais, l'atelier du documentaire. Radio Libertaire 89.4, vous écoutez l'émission Un peu d'air frais. Aujourd'hui, nous allons vous présenter donc une soirée qui a lieu la semaine prochaine, le 8 mars, donc samedi 8 mars à partir de 17h à Saint-Denis. Il s'agit donc d'une soirée sur les documentaires féministes. Donc nous allons aborder pendant toute cette émission les différents films avec des interviews des réalisatrices. Donc on commence tout d'abord avec la présentation de la soirée. Donc avec les organisatrices. Donc voilà, on écoute ça dans quelques instants. Bonjour Anne, donc tu fais partie des organisatrices donc de la journée documentaire féministe. Donc des projections le 8 mars de 17h à 23h de trois films. Est-ce que tu peux nous présenter cette journée ?
Bien, écoutez, on fait une journée dans le cadre de la Journée internationale des femmes et on a sélectionné trois films. Alors avec la particularité d'être fait par des femmes et sur des femmes. Et puis, du coup, ça montre vraiment la réalité des femmes dans le siècle actuel. Et voilà, donc on va organiser cette soirée au Pavillon des Artistes, qui est à Saint-Denis, qui est un squat d'artistes qui existe depuis quelques mois et qui donc nous accueille pour cette soirée à prix libre.
D'accord, et je crois qu'il y a aussi un petit repas festif.
Alors festif, je ne sais pas. En tout cas, il y aura un temps voilà, dans la soirée où on essaiera de manger avec les spectateurs qui sont là et de partager un moment d'échange et de discussion autour de ces films. Donc on a trois films, trois documentaires. Un premier qui commençait à 17h qui s'appelle Anaïs s'en va en guerre. Un second autour de 18h30 sur les femmes au volant. Et puis, qui sera suivi d'un débat avec le collectif contre le publisexisme. Et puis, nous terminerons la soirée par Ma petite dignité, qui est également un documentaire sur le parcours d'une femme.
Donc, comme je fais aussi partie des organisatrices, je voudrais juste faire un petit point par rapport au collectif contre le publisexisme. Donc, c'est Sophie, une des membres du collectif qui va intervenir suite au film Femmes au volant. Donc il y a pas mal d'extraits hein. Dans Femmes au volant, on entendra l'interview tout à l'heure de la réalisatrice. Il y a beaucoup d'extraits de publicité parce que les femmes et la voiture, c'est un sujet qui est redondant depuis l'existence de la voiture. Et donc il nous a semblé, en l'absence aussi de la réalisatrice, que ce serait intéressant de débattre sur le publisexisme. Donc le collectif contre le publisexisme a écrit un livre. Donc les trois femmes qui ont participé à cet ouvrage, c'est Sophie Pietrucci, qui viendra donc débattre ensuite, après le film. Il y a aussi Chris Viantian et Aude Vincent. Donc c'est un livre qui est sorti aux éditions L'Échappée, voilà. Et donc qui parle en fait, qui retrace un petit peu qui analyse toutes les publicités et la misogynie et le sexisme qu'il y a derrière les publicités. Donc on va entendre tout à l'heure l'interview donc de la réalisatrice de Femmes au volant, Brigitte Chevet. Donc c'est un film qui a été réalisé en 2010, et on entendra aussi l'interview donc de Marie Dolez, qui a réalisé le film Ma petite dignité en 2001. Donc, ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse parler plus précisément d'Anaïs Saint-Vatanguerre, puisque pour le coup, la réalisatrice Marion Gervais est en Inde actuellement et c'est un peu compliqué de l'interviewer. Est-ce que vous pouvez présenter le film ?
Donc le film, c'est on va suivre une jeune fille qui se lance dans la l'agriculture et qui va se mettre à cultiver des plantes par passion. Et donc on suit pendant toute une récolte, on suit tous ses combats, toute son aventure. C'est une jeune fille très attachante, extrêmement combative, très décidée. Et on la voit rencontrer toutes les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre d'aventure. Et puis les différentes personnes qui vont venir l'aider, toutes ces démarches.
Alors, qu'est-ce qu'elle cultive en fait, Anaïs, et puis quel âge elle a ?
Alors l'âge, une vingtaine d'années, je crois, pas plus. Après, elle cultive des plantes, des fleurs essentiellement. Donc c'est très beau, c'est des très très belles cultures, extrêmement colorées.
Oui, et alors du coup, ce qui est intéressant dans ce personnage, c'est que c'est effectivement une personne très motivée, hein, qui est toute jeune. Au début, on la voit dans sa caravane. Elle vit de manière assez précaire. Et le film commence un peu sur un énervement. Enfin, elle a envie de tout casser, elle n'arrive pas, c'est un peu compliqué. Et ce que j'aime aussi beaucoup, moi, personnellement, c'est les images, en fait, la manière dont la réalisatrice a tourné le film. Le premier plan, on voit Anaïs en train de désherber, enfin, elle est en train d'arracher les mauvaises herbes. Et on est vraiment dans les herbes avec Anaïs au ras du sol.
Pour l'électricité, du coup, j'avais eu RDF qui m'avait dit que c'était à la mairie. Je vais voir la mairie. Ah bah non, ça a eu RDF de s'en occuper, donc c'est cool, ils se rebalancent le dossier. Eux aussi, personne ne veut faire le boulot. Enfin bon, c'est pour tout quoi. Puis pareil, hein, la réserve d'eau qu'on voulait faire, là, du coup, j'ai tout vu en même temps. Ah bah non, c'est interdit en zone humide de faire une réserve d'eau, forcément. C'est logique. Donc voilà quoi. Donc ils commencent à me gonfler. Enfin, celui-là, je vais aller voir ailleurs comment c'est, parce que clairement, les bâtiments, les roues, il y en a ras-le-bol quoi. Franchement, c'est bon quoi. Donc voilà pourquoi, ouais, non, je suis bien remontée là, mais ils ont réussi à me pomper toute mon énergie, c'est cool. On est tout arrêté maintenant. Donc, je suis venue désherber, ça me détend. Vrai, on a de la chance cette année, et on a du désherbage. Ouais. Franchement, j'en peux plus là, ils m'ont complètement bouffé. Je dis, j'arrête là, hein. Je m'installe plus. Hein. Je m'installe plus, je vais retourner faire mes études et je m'installerai dans 10 ans quand à la base je voulais faire. D'ailleurs, je voulais pas m'installer à mon âge à la base. Hein. C'est juste qu'il fallait reprendre la ferme en urgence. Donc voilà, je me suis dit ok, mais là en l'occurrence, j'ai plus rien à foutre là. Donc je vais reprendre mes études et je m'installerai plus tard. Hein. Et puis surtout pas à Saint-Suy. Voilà, je vais te dire. C'est bien, c'est un plus beau village de France. Bah, ils vont les garder pour les touristes. Hein. Mais c'est pas moi qui vais venir cultiver ici. Hein. Ils vont garder leur maïs. Hein. Ils n'auront pas des belles plantes. C'est pour eux. Bon, fou, moi. On m'installe ailleurs, ce sera bien plus simple. Et c'est bon, quoi, les villages touristiques à la con, là. Travailler 80 heures par semaine pour gagner 300 euros par mois, ça va 5 minutes, hein. Ça peut se développer, hein. Si t'as aucune perspective d'avenir en plus, bah non, non, clairement non. C'est pas vivable, hein, franchement. Et en plus, tu vois, je me rends compte que très angoissée de nature et je sais même pas si je serais capable d'avoir un truc ma propre ferme parce que je pense que je serais trop angoissée, tu vois. Je sais même pas si je serais capable, hein. Je pense que je suis bien trop faible pour avoir un truc à moi toute seule, hein. Et je suis pas de travailler avec quelqu'un, donc avec ça c'est le bail.
Anne, tu as peut-être des choses à rajouter sur ce film ?
Moi, j'ai bien aimé la personnalité de cette jeune femme. C'est vrai qu'on la voit très en colère au début. Je pense que ça lui donne de l'énergie pour arracher ses mauvaises herbes. Et puis, au fur et à mesure, on voit vraiment son parcours, les difficultés, en même temps les joies qu'elle rencontre à réaliser son rêve, un peu. Donc, c'est assez enthousiasmant, finalement, de la voir dans toutes ces étapes de la réalisation de son entreprise. Et d'ailleurs, ce qui est plutôt sympa, c'est qu'on va, pendant la soirée, déguster des tisanes qu'elle est en train de nous envoyer pour que on puisse, non pas la faire venir parce qu'elle ne pouvait pas être là, mais la faire participer à cette soirée. Donc voilà, je trouve qu'elle a une démarche dynamique et assez réfléchie, puisque elle parle assez bien des difficultés de son parcours, du fait qu'elle se retrouve dans une exploitation où la terre n'est pas d'une très bonne qualité, mais où du coup elle doit décupler en inventivité pour pouvoir faire des plantes réussies, bio. Donc il y a quand même une démarche très très volontariste de sa part. Et puis, si je peux encore ajouter quelque chose, moi, je trouve qu'elle a une énergie à travailler. Quand on la voit travailler, on voit qu'elle se donne à fond. Mais moi, je suis presque fatiguée à sa place, alors qu'en fait, on la voit travailler, récolter, retirer toutes les mauvaises herbes, et puis poursuivre en même temps sa formation et participer en alternance à la production pour un agriculteur déjà installé. Donc il y a vraiment c'est une année où elle a tout à faire. Son installation, son déménagement dans une nouvelle exploitation, ses cours, la vente de ses produits, enfin, et elle est d'une énergie envoûtante.
Mais je crois que si les plantes n'avaient pas d'odeur, ça m'intéresserait pas. C'est vrai.
Ouais.
Il y a de bonnes plantes, ouais.
C'est ça qui t'intéresse.
Ah bah à la base, ouais, ce qui m'a fait venir vers ça, ouais. Ah oui, c'est les odeurs, les plantes, ouais. Bah je contrôle tout à l'odeur, hein, pour le coup.
C'est pareil pour tout.
Je contrôle tout.
Amoureux aussi, t'es chaud.
Ah bah tout ça pour le coup, un homme qui me tromperait, bah je le sentirais direct. Ah bah c'est vrai. Non mais c'est, tu rigoles, bah un parfum.
Avec une femme qui se parfume. Et qu'est-ce que tu penses de ta première rencontre avec Rollinger ?
Il m'a dit qu'il m'aiderait peut-être pour me faire un peu de publicité, des choses comme ça. Donc venant de lui, ça peut être intéressant, je pense.
Ouais.
C'est pas super lui qui me fait la promotion, quoi.
Tu as semblé être quelqu'un plutôt passionné par les plantes, passionné par le business ou passionné par...
Par les plantes, mais lui, c'est plus les... C'est toutes les saveurs, en fait, qu'il cherche et les... Non, moi, je suis plus dans l'odeur et lui, c'est plus les saveurs, en fait, finalement.
Et du coup, ça lui a plu, ton projet ?
Ouais. Ah bah ouais, carrément, ouais.
Et tu lui as demandé si ça lui semblait réaliste ?
Ah non, ça, je l'ai pas demandé. Non. Non, mais, enfin, lui avait l'air confiant, en fait. C'est ça qui est assez...
Rassurant.
Ouais. Oui, parce que... Enfin, bon, après, il est pas non plus dans le milieu agricole et tout ça, enfin... Parce qu'après, moi, là où on m'a découragée, c'est dans le milieu agricole, surtout, finalement. Et depuis le début du BP, de toute façon, on m'a dit direct que j'y arriverai jamais. Donc, 9 personnes sur 10 me disent ça. Donc après, si je les crois, ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté, mais... Au début, j'en avais marre d'avoir à prouver des choses aux vieux agriculteurs là qui te prennent pour une nana de la ville et compagnie. Ça maintenant je m'en fous complètement, mais oui, pendant le 3H3P là, avec la chambre d'agriculture, je crois qu'il y avait une nana en maraîchage bio, on était deux je crois. Enfin bon, moi j'étais pas vraiment en maraîchage, du coup j'étais plus en plantes aromatiques en plus. Et en gros, il m'a dit, enfin c'est pas en gros, c'est texto, il m'a dit que j'étais une nana jeune qui venait de la ville et qu'en plus j'étais mignonne, donc j'avais rien à foutre dans les champs. Enfin en gros, il m'a décrédibilisé complètement et ouais, il m'a dit d'aller faire des confitures quand même quoi.
Pour aller dans les champs, faut être moche.
Bah ouais, c'est ce que, ouais, c'est quand même dingue.
C'est quoi ça?
Ouais hein.
Il m'a dit de m'installer moi.
C'est quand même abusé, enfin, il m'explique le rapport quand même avec les dans la terre. C'est quand même un genre de remarque machiste et simplement débile en fait. Moi déjà je suis restée un peu con quand même sur le coup quand il m'a sorti ça. Parce que je sais bien que vis-à-vis des vieux agriculteurs, je suis pas crédible, mais maintenant je leur serre la main. Bah c'est vrai. Bah c'est vrai. N'empêche, ça joue vachement ça.
Bah ouais.
C'est vrai, maintenant que j'ai de la poigne.
Et donc je crois que toi, Stéphanie, il y avait d'autres aspects qui t'intéressaient en dehors de la personnalité d'Anaïs.
On peut dire qu'il y a un arrière-plan au film qui est la manière dont est filmée la nature, les saisons, le temps qui passe. Et ça, c'est très prégnant dans le film. Et on suit vraiment toutes les différentes étapes en fait, de la récolte de ces fleurs. Et quand on est, par exemple, citadin, etc., on ignore un peu toutes ces étapes, tout ce travail nécessaire. Et là, on le découvre, et on le découvre d'une façon qui est vraiment très, très, très belle. Les couleurs, le ciel est extrêmement présent, la verdure, la richesse de la nature, la richesse colorée de la nature est vraiment prégnante dans le film. Et c'est un très, très beau film à voir.
Et puis en plus on est en Bretagne, donc forcément ça explique un petit peu toutes ces couleurs, ce vert et la météo qui change régulièrement. Donc elle fait des rencontres, donc il y a son professeur qui la soutient, il y a donc le maraîcher pour qui elle travaille, qui la soutient également. Et alors j'ai oublié le nom, mais il y a aussi un professionnel qui doit aussi travailler autour des plantes aromatiques, qui la soutient également. Je ne sais pas si vous avez son nom en tête. Non, vous n'avez pas relevé. Donc voilà.
En fait, il a comme, je crois qu'il est un peu tombé aussi sous le charme de cette énergie, hein, et il a envie de l'aider à commercialiser sa production. Parce que c'est vrai que Anaïs est à fond dans ses plantes. On la voit tout au long du film entourée de plantes. On voit son visage ou ses bras qui travaillent et ou ses bottes hein, qui avancent aussi dans les allées. Mais on peut imaginer qu'une fois cultivée, ben il faut réussir à les vendre. Et cette personne qui travaille pour des restaurateurs ou des revendeurs à Paris essaye de lui donner des conseils pour la vente de ses produits.
C'est de l'ail très doux.
Mmh. Hein? Ah oui, c'est bon. Hein? Ah bah oui. Mmh. Mmh. Oh, c'est bon. Ah oui, non, j'aime pas ça. Oh non. Oh là.
Ça.
Oh bah l'odeur.
C'est puissance 10. Hein.
Oh, c'est vachement fort.
Ouais. Il faut qu'un climat de confiance se crée entre les personnes qui vont vous porter et qui vont vendre vos produits et vous-même. Il faut pas dire tiens, il faut que je sois là parce que c'est à la mode, ou je suis là parce qu'ils vont me prendre telle quantité. Il faut que je sois là. C'est-à-dire qu'il faut jamais perdre sa liberté. Il faut être vigilant, quoi. Il faut pas se faire brûler. Faut pas se brûler les ailes.
Bah, du coup, je suis venue vous apporter
c'est
première récolte.
Ouais, bien sûr.
Il y a un peu de
tout. Elles sont belles, vos plantes. Oui. C'est incroyable. Tu vois qu'il y a deux types de manches.
Oui, j'en ai trois normalement. Il y a la verte, la bergamote et la poivrée.
Ouais. Elles sont vraiment belles. Et elles sont très qualitatives parce que, justement, de réussir à faire ces types de basilic séchés comme ça.
Oui, bah oui.
Pas évident.
Non, je confirme.
Mais elles sont belles justement parce que vous avez apporté un soin très particulier.
Ouais.
Et vous pensez que demain, si vous en faites encore un peu plus, vous réussirez à apporter un tel soin à chacune.
Ah bah moi je veux pas que le soin, pas que la qualité en pâtisserie.
Parce que là vous les traitez comme des petites princesses.
Bah ouais, mais c'est ça qui me plaît.
Vous en avez beaucoup?
De coriandre?
Oui.
Ouais. Coriandre, je sais pas encore exactement. Parce que je l'ai pas encore toute triée.
50, 60 kilos?
Oh non. Genre, j'ai même pas ça en tout, je crois.
Bon, bah, c'est super.
Puis je vous avais amené deux, petits mélanges du coup que j'ai fait.
Ah, c'est adorable.
À la maison.
Alors là,
bon, ça, c'est pour que vous ayez mes coordonnées, mais je l'ai pas, mis parce que j'en ai refait une en fait, une carte.
Là, vous
là.
Faites
je
des
l'ai
cartes.
Pas reçu
ça,
encore.
Vous êtes dans le business.
Ah, bah oui, ça y est. Bah, j'en ai fait une autre. Là, ça y est, je l'attends.
Et là,
c'est... Alors celui-là, il plaît ou il plaît pas? Je l'ai fait goûter à plusieurs personnes. Il y en a qui adorent et il y en a qui détestent.
Ouais, mais il y a toujours à l'esprit que le goût du plus grand nombre n'est pas toujours le meilleur.
Oui, aussi, ouais, tout à fait. Ouais. Oui, ah bah ça, c'est
faut
sûr.
Faut vraiment être...
Bah, là, c'est la Reine des Prés et le thym citron.
Ah, putain, c'est une merveille, la Reine des Prés. Hein. Très sincèrement, la dernière fois, quand je suis venu vous voir, je pensais pas que vous alliez me ramener tout ça. Enfin,
c'est
que
vrai?
Vous alliez pouvoir avoir toute cette gamme.
Bah, j'en ai plein. Après,
enfin, l'été, elle était super.
Oui, bah, j'ai eu de la chance. Hein. J'ai
non,
eu
mais
la chance.
C'est pas la chance.
Bah, avec le
non,
temps,
mais il ne faut pas dire de la chance ou malchance, c'est comme ça, c'est... Non, je sais pas, voilà.
Il y a le travail en amont.
Bah, bien sûr, derrière, ça ne suffit pas, la chance. Hein.
Oui, donc c'est un film qui dure 46 minutes et on la voit donc à la fin à Paris, habillée toute féminine, avec ses gros talons, courir à droite à gauche pour trouver des vendeurs. Voilà, bah, si vous avez, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter ?
Alors on peut rajouter que c'est un film qu'on avait aussi envie de montrer dans les documentaires féministes parce que c'est vraiment une belle énergie de femme. Et on peut dire que c'est une jeune fille d'aujourd'hui. Et on peut dire aussi que les combats féministes, eh ben, ils ont quand même fonctionné. Puisqu'on peut être femme seule, se battre seule, monter son exploitation seule et être tout à fait crédible. Puisqu'elle arrive à être vraiment crédible. Et ça, ben, on peut se dire au moins qu'il y a quand même un gros chemin qui a été parcouru.
Oui, puis tu faisais une comparaison aussi tout à l'heure avec le film Ma petite dignité, qui pour le coup est plutôt autour d'un autre type de femme.
Oui, voilà. Alors là, on est face à une femme très active et dans Ma petite dignité, on est une femme, un très très beau aussi portrait de femme, une femme très belle et en même temps assez passive finalement par rapport aux événements, par rapport à ses choix. Et c'est deux contrastes, c'est deux très beaux portraits, mais c'est pas la même génération. Ni la même culture, ni la même éducation.
Bah merci. Donc on va entendre maintenant l'interview donc de Brigitte Chevet pour le film Femmes au volant qui est sorti en 2010.
Il y a une chose qui est sûre, c'est que Femmes au volant, mort au tournant.
Femmes au volant. C'est la grosse caricature, la grosse cavalerie.
Qu'est-ce que tu penses de la suite du dicton ? Femme dans le fossé, danger écarté.
Femme dans le fossé, danger écarté. Mais oui, effectivement, ouais. Effectivement.
Est-ce que vous pensez que les femmes ont une façon à elles de conduire ?
Ah oui.
Laquelle ?
Pas toujours très bonne.
Oui, mais par exemple ?
Ah, ben ça, les femmes sont parfois irrégulières.
La femme au volant. Je vais vous en parler. Je viens justement de rencontrer une.
Mais qu'ont-elles donc fait pour mériter ça ? Ce préjugé, ordinaire et tenace. C'est l'histoire d'une drôle de guerre, celle du partage du volant entre elle et lui.
Ça, c'est les femmes au volant. Tu sais bien, quand c'est elles qui conduisent, elles conduisent bien. Hein? Alors qu'elles roulent vite des fois, et puis elles sont brusques aussi. Mais non, elles, c'est bien. Toi, quand tu prends le volant, oh, tu vas trop vite et tout. Mais le coup dernier, elle se rappelait plus qu'elle faisait la même chose.
Ouais, non, non, mais hein? Après les statistiques, voilà. C'est les femmes qui ont le moins d'accidents. Hein.
Oui, ah oui.
Alors putain, qu'est-ce qu'elles en provoquent, hein, mon Dieu.
Bah, moi, la mienne, elle a tellement peur d'en provoquer que... Quand on prend l'autoroute, il est à 90. Bon, du coup, pour réduire mon budget vacances, je ne prends plus l'autoroute maintenant. De toute façon, ça sert à rien.
Quatre blondes dans une bagnole. Qui est-ce qui conduit?
Qui est-ce qui conduit? La plus jeune.
Non, le mec
la
de
plus
la...
vieille.
Le mec de la dépanneuse.
C'est con.
Au début, tout est simple. Quand l'automobile apparaît, le volant, c'est une affaire d'homme. Si aucune loi n'interdit aux femmes de conduire, leur place est évidemment à la maison. Ou à la rigueur, aux côtés du conducteur. En 1904, le journal L'Illustration affirme que les chauffeurs au féminin n'ont pas plus d'avenir que des femmes astronautes ou ingénieurs. Ces messieurs font de la voiture leur jouet favori. Un fabuleux moyen de déplacement, de prestige et de séduction. La fée automobile, une histoire d'amour passionnée, totale, entre le mâle dominant et la machine, symbole de sa virilité. Et les femmes? Les femmes, elles, sont considérées comme trop émotives ou trop distraites pour prendre le volant. Même si aucune étude ne prouve cette inaptitude, que chacun croit inhérente à leur nature féminine. Ce n'est pas un hasard si les deux pionnières de la conduite en France sont des aristocrates fortunées, veuves et militantes du droit des femmes. Pas de mari pour les contrôler et leur rang social les protège. Une transgression impensable pour les citoyennes ordinaires. La première à obtenir son permis, c'est la duchesse d'Uzès en 1898, 5 ans après le premier homme. La première aussi à payer une amende pour excès de vitesse, 15 km/h au lieu de 12 dans les allées du bois de Boulogne. Et puis, il y a Camille Crespin-Dugast, l'Amazone aux yeux verts. Seule femme pilote de son temps, elle participe à la meurtrière épopée Paris-Madrid de 1903. Bien placée, Camille préfère s'arrêter pour sauver la vie d'un concurrent qui agonise dans un fossé. Après 7 morts, cette course est annulée. En dépit de son acte de bravoure et de générosité, elle est le seul pilote exclu de la compétition automobile, officiellement pour nervosité féminine.
Bonjour Brigitte Chevet, donc on va parler du film Femmes au volant qui est sorti en 2010, qui a été produit par Quark Productions et qui dure 48 minutes. Alors peut-être avant de parler de Femmes au volant, vous pouvez retracer un peu votre parcours de cinéaste.
Oui, bonjour. Ouais, je sais pas, enfin, c'est assez éclectique mon parcours du cinéaste. En fait, je suis journaliste de formation, mais j'en ai eu très vite marre de faire des choses courtes et superficielles pour la télévision. Donc, je suis passée petit à petit au documentaire. Et ça fait 15 ans que je vis du documentaire pour la télé. Je n'ai pas encore fait pour la salle. Voilà, sur des thèmes assez éclectiques, qui va de l'écologie au portrait, en passant par les documentaires de société. Voilà.
Oui, alors j'ai relevé quelques titres qui m'intéressent, comme l'affaire Plogoff, par exemple, en 2000. Et pour rester dans les films un peu féministes, en même temps, Odette du Puy Godot, de la Bretagne au désert.
Alors je suis en fait, j'habite en Bretagne, c'est un choix que j'ai fait, enfin, j'ai quitté Paris à un moment avec ma petite famille et puis j'habite en Bretagne, donc j'ai fait aussi beaucoup de films en Bretagne, c'est vraiment une terre formidable pour le cinéma et puis je pense que ça fait partie aussi vraiment de mon identité quoi, mais je ne suis pas non plus cantonnée forcément à la Bretagne, voilà.
Alors, on peut donc parler un petit peu de ce film, Femmes au volant, qui retrace donc l'histoire des femmes au volant. C'est un film qui dure, donc qui est assez court, hein, 48 minutes. J'ai l'impression que vous faites surtout des films de ce format-là. Et avec beaucoup d'archives. Alors, comment est né ce film ?
C'est lors d'un film précédent qui s'appelle Jupe ou pantalon, que j'avais tourné dans un lycée près de Rennes sur la naissance de la journée de la jupe, la problématique de l'habillement féminin et des relations garçon-fille à l'adolescence. J'avais rencontré une historienne qui s'appelle Christine Barr et que tous les historiens du féminisme connaissent et qui avait spécifiquement travaillé sur les questions d'habillement. Et puis, à la fin de l'interview, on boit un pot ensemble et puis elle me dit « Oh, j'ai un projet formidable, mais je ne vais pas avoir le temps de le faire tout de suite, c'est dommage, je voudrais travailler sur l'histoire des femmes au volant. » Et elle m'a dit ça et moi, tout de suite, ça a fait « dring dring » dans ma tête parce que c'est un sujet transversal assez simple finalement et assez novateur et qui permet de raconter. Et tout de suite, j'ai vu qu'il y avait là un siècle d'histoire d'automobile croisé avec un siècle d'histoire des femmes et qui était un peu la métaphore de, on va dire, la prise d'autonomie des femmes, qui est à la fois une prise d'autonomie, on va dire, géographique. De plus en plus de femmes conduisent, se déplacent dans l'espace et qui va avec une prise d'autonomie plus métaphorique ou plus... sur d'autres plans, en tout cas. Voilà, c'est pas forcément une relation de cause à effet. C'est pas parce que les femmes conduisent qu'elles se sentent plus libres, mais il y a une sorte de parallèle, comme ça, sur lequel j'ai tout le temps joué, en fait, dans mon récit. Et puis avec des allers-retours avec aujourd'hui et montrer la persistance, malgré le fait que les femmes aujourd'hui conduisent autant que les hommes, de préjugés assez incroyables, assez faux, enfin même très faux, qui est de dire les femmes conduisent mal, mais que tout le monde suit encore, même les femmes hein, et même les jeunes. Voilà, j'étais très surprise, j'avais un fils de 20 ans là, à cette époque-là, et il m'a dit, maman, mais enfin, c'est évident que les femmes n'ont pas le sens de l'orientation, elles ne savent pas se déplacer dans l'espace. Alors, voilà, c'est toute cette histoire-là.
Alors, c'est un film fait à partir d'archives, beaucoup, et qui mêle donc ces images d'archives et beaucoup d'humour dans le commentaire et dans les images trouvées. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer le travail d'archives, enfin, ce que vous avez fait comme travail pour trouver ces archives, et puis on parlera après du commentaire et du ton.
Le travail d'archives, c'est une recherche assez classique sur un siècle, donc c'était très large. Tout ce qui concernait l'automobile, alors au début, beaucoup de photos. Ce qu'on voit sur les photos des débuts de l'automobile, c'est que c'est les hommes qui conduisent, bien évidemment. Et à l'époque, on dit que c'est évident, quoi, que ça ne se discute même pas. Les femmes ne sont pas là pour conduire. Enfin, c'est vraiment des femmes exceptionnelles qui conduisent. Et en général, des femmes cultivées, veuves, riches. C'est-à-dire indépendantes, avec aucun mari pour les censurer. C'est seulement ces femmes-là, la première femme qui a passé son permis en France, c'est la duchesse d'Uzès. Donc, elle était de la haute, et puis elle faisait de la chasse à cour. Enfin, c'était une femme déjà bien affranchie pour l'époque. Donc veuve, riche et personne ne l'a empêchée de passer son permis. Mais c'était bizarre hein, à cette époque-là. Mm.
Donc beaucoup de photos, puis ensuite quel type d'archives, dans quelle direction vous êtes parti pour les chercher, ces archives?
Toute direction, tous azimuts. Notre regret, c'est qu'on n'avait pas de budget assez suffisant pour se payer des extraits de fiction, parce que là, dans les films de fiction, il y a des choses magnifiques, et notamment de constater la persistance du fait que c'est toujours les hommes qui sont au volant, dans toutes les fictions, que les choses basculent en fait vraiment très 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 tard, ou que quand on montre une femme, par exemple Audrey Hepburn dans les comédies des années 40-50, elle fait que bunier sa voiture, quoi. Voilà, c'était... Mais ensuite, on a cherché aussi dans les petits films burlesques, genre Chaplin, on a cherché dans les publicités, on a cherché beaucoup dans les fonds des constructeurs de voitures, qui mettent en scène très rarement hein, les femmes, ou très tardivement, dans les années 70, quand on a la deuxième voiture seulement. Avant, quand il y avait une voiture assez rare, évidemment, c'était les hommes qui conduisaient. La femme commence à être mise en scène dans les publicités en train de conduire uniquement quand la deuxième voiture arrive dans les foyers et uniquement sur des petits modèles.
Et puis, il y a aussi pas mal d'archives autour des actualités.
Oui, alors ça, c'est peut-être plus récent, effectivement, mais où on parle des statistiques, d'accidents, de choses comme ça. Ouais. Mm.
On voit aussi des interviews, des petits reportages d'actualité, je ne sais pas.
Alors, dans les années, on va dire, à les fins des années 50 jusqu'aux années 70, les femmes commencent à conduire beaucoup plus. Et là, on voit des reportages, effectivement, où les reporters posent des questions assez, on va dire, énormes, vues d'aujourd'hui, sur la capacité des femmes à conduire. Et puis, on fait des reportages sur ces femmes exotiques qui commencent à conduire des bus ou des camions, voire des autobus. Voilà.
Dans les années 30, un conducteur sur 15 seulement est une conductrice, et surtout du dimanche. Pour ces bourgeoises raffinées, il est alors du dernier chic de s'afficher dans des concours d'élégance automobile. La femme, la voiture et même le chien concourent ensemble pour le prix de beauté. Tous trois se doivent d'être assortis, triple joyau à faire briller et dont l'éclat rejaillit sur leur mâle propriétaire. Deux industries en pleine ascension, la mode et l'automobile, entament un dialogue, celle d'une alliance chic et glamour, qui ne va pas se démentir au fil des ans. En matière de couture comme de moteur et de carrosserie, à chaque saison sa nouvelle collection, ses nouvelles lignes, formes, couleurs, modèles, qui deviennent les marqueurs les plus sûrs de leur époque. La voiture, accessoire de la femme, à moins que ce ne soit le contraire. Toutes deux objets du désir et du regard masculin. Duo chéri des photographes. Et quand la femme y tient le volant, c'est le plus souvent celui de sa robe.
On parlait tout à l'heure aussi du commentaire qui tient un petit peu l'ensemble. Comment il s'est construit ce commentaire?
Je sais pas, c'est une alchimie. Mais je sais pas comment ça se passe à l'intérieur de moi quand j'écris ça. Mais je voulais faire du second degré, voilà. Et puis voir ça avec beaucoup d'humour. Mais je trouve que le travail d'histoire et puis le travail de documentaire historique est très intéressant parce qu'il permet de prendre du recul avec les préjugés de chaque époque et de tout relativiser. Et j'espère que ça... D'une part que ça a fait rire les gens, bien sûr, parce qu'il y a des archives super comiques. mais aussi que voilà, ça fait réfléchir en même temps. Mais je voulais pas être dans un discours féministe, on va dire revendicatif de base, en disant regardez ça c'est débile. Non non, c'était je voulais faire une pirouette quoi, prendre les choses au second degré et puis faire réagir les gens.
Oui, je trouve que le commentaire effectivement n'est pas militant. Et en même temps, il sait mettre en avant ou soulever. Enfin, je pense qu'il n'y a rien qui est oublié quand on regarde en tant que féministe ce film. Moi, j'ai eu cette impression que tous les sujets, enfin tout ce qui tourne autour du féminisme était abordé dans ce film et dans le commentaire.
Oui, oui. En même temps, voilà, je ne voulais pas faire un pensum militant, mais plus un travail historique sérieux, hein, documenté. Et qui n'avait jamais été fait, donc ça m'a demandé beaucoup beaucoup de travail parce que mon historienne elle n'avait pas eu le temps de le faire. Et à un moment j'ai espéré qu'elle m'aurait aidée sur ce film, mais bon ça n'a pas été possible, donc j'ai passé beaucoup de temps en bibliothèque à chercher de la documentation, mais bon, un truc sérieux, relativement objectif, mais avec tout le temps du second degré parce que les archives sont vraiment poilantes quoi, il n'y a pas d'autre mot.
Et pour juste pour comprendre un petit peu comment ce film a été diffusé, est-ce que la diffusion, donc vu que c'est pour la télé, elle a été acquise avant le projet, enfin avant la construction du film, ou est-ce que la diffusion a plutôt été trouvée après ?
Ouais, non, mais quand on fait un film d'archives, on peut pas partir sans financement, donc sans télé, c'est pas possible. Non, non, France 5 nous a suivi avec l'INA, c'est en coproduction avec l'INA, parce qu'il y a énormément d'archives, beaucoup d'archives françaises. Et donc ça a été très bien diffusé, parce que France 5 a bien aimé le film, ils l'ont diffusé en prime time, ce qui est formidable pour un documentaire un peu, on va dire, pas trop formaté, un peu original. Voilà, donc j'étais très contente. Ouais.
On peut aborder peut-être un point important du film qui tourne autour des préjugés. Les préjugés qu'on aperçoit à travers les films, à travers donc les archives au début du siècle. Et puis on voit qu'ils perdurent aujourd'hui. Finalement, c'est toujours les mêmes préjugés.
Ben oui, il y a persistance. J'avais vu à un moment du film qu'en Chine, ils avaient ouvert un parking réservé aux femmes avec des places plus grandes pour les voitures. Et puis quand on parle avec les sociologues ou qui s'intéressent au comportement de la sécurité routière, les statistiques sont tout à fait édifiantes. Hein. 9 morts sur 10 sur la route sont occasionnés par des hommes. En fait, les femmes ont autant d'accidents que les hommes, mais en général, beaucoup moins graves. Voilà. Et quand on assiste à des... Vous savez, ces stages-là de récupération point pour le permis, ces 9 stagiaires sur 10 sont des hommes. C'est-à-dire que encore aujourd'hui, on voit qu'il y a des comportements très sexués, très différenciés selon les genres au volant. On n'a pas apparemment la même relation. Alors voilà, qui de la poule, de l'œuf, est-ce que c'est culturel, physiologique, je ne peux pas répondre à cette question, mais si on regarde l'histoire sur un siècle, on se dit que forcément qu'il y a du culturel dans tout ça, hein, on est bien d'accord, voilà. Donc, mais encore aujourd'hui, c'est très sexué, la relation à l'espace, la relation à la vitesse, la relation aussi au fait de montrer sa puissance avec 4 roues, c'est encore très très masculin.
Je reviens un petit peu sur la forme, parce que finalement vous avez fait le choix de ne pas interviewer un sociologue, enfin un spécialiste qui aurait pu parler un peu de... ou un historien, l'historienne que vous avez rencontrée.
Oui, non, je voulais garder les infos plus dans le commentaire, mais éviter le côté trop pesant du documentaire avec des interviews. Je voulais rester dans le côté humour léger, archives, et puis des petites scénettes que j'ai mis en scène avec des jeunes aujourd'hui ou des moins jeunes au bistrot en train de boire un coup et qui faisaient des grosses vannes un peu foireuses sur les femmes au volant. Voilà. Non, c'était le postulat de départ. C'est vrai que j'aurais pu faire quelque chose de beaucoup plus traditionnel. Mais voilà, non, c'est plus amusant comme ça, je pense. Ouais, ouais.
Et alors, du coup, effectivement, alors comment ça s'est construit, ça effectivement, ça commence, on commence assez rapidement avec ce dialogue d'hommes autour d'un bar. C'est des gens que vous connaissez, enfin, comment ça s'est construit ?
Bon, alors, je vais tout vous dire. Je vais avouer. Ces hommes-là, parce que c'est très difficile de dire à un homme ou à plusieurs hommes, je voudrais filmer le machisme ordinaire, est-ce que tu veux venir avec moi, on va boire une bière et puis tu vas me sortir tout ce que tu sais sur les femmes au volant. C'était un peu compliqué à filmer, donc j'ai un peu, on va dire, mis ça en scène, voilà. Mais ce sont ils font du théâtre amateur, c'est une petite troupe que j'ai rencontrée et qui est sur Rennes. Et du coup, je leur ai dit, venez, on va faire quelque chose comme ça. Et on dirait que vous êtes des machos. Et puis en fait, c'est pas vraiment des machos, c'est des gens super bien. Et puis on a préparé ça un peu ensemble, mais ça, je crois que ça sonne juste et ça marche. Mais c'est vrai que j'ai pas assumé le fait à l'écran que ce soit des acteurs. C'est marqué dans le générique, voilà. Acteur amateur, hein, je précise. Ouais.
Et puis alors en parallèle, on a ce petit groupe de jeunes qui discutent et on se rend compte que les préjugés, que ce soit d'ailleurs les femmes ou les hommes, sont à peu près les mêmes. Hein. Enfin, en tout cas, on tourne autour des préjugés, la nature de la femme, la nature de l'homme, enfin plutôt la nature de la femme d'ailleurs.
Bah, on est en plein dans le débat encore aujourd'hui, hein, sur le genre. Ce qui est étonnant, voilà, c'est que c'est persistant. Même si aujourd'hui les femmes conduisent toutes, on va dire, j'ai encore beaucoup d'amis qui ne supportent pas que leurs femmes conduisent quand eux ils sont dans la voiture. Enfin, il y a encore beaucoup, beaucoup de comportements comme ça et que les gens n'interrogent pas, quoi. C'est comme ça. Et bon.
Oui, et puis cette jeune femme qui dit « Ah oui, quand même, les femmes ont plus de problèmes d'orientation », ça, c'est des discours qu'on entend encore tous les jours.
Oui, mais là, j'ai pas fait d'études scientifiques. Moi, je sais que j'ai pas trop de problèmes d'orientation, mais c'est vrai que je vois des copines qui en ont vraiment, mais et alors, quoi ? Est-ce que pour autant, il faut faire des généralités ? Non, je pense qu'inconsciemment, il y a un reste de... Ben, la femme doit rester à la maison, donc le déplacement n'est pas quelque chose dans lequel elles se sentent complètement à l'aise. Mais peut-être que ça va se travailler. Moi, c'est des évolutions très lentes. Moi, j'ai fait ce film en réfléchissant un peu à ma lignée maternelle. Et par exemple, mes deux grands-mères étaient des femmes très cultivées, bac plus 5, plus 6, plus 7, pour leur génération, c'était top, quoi. Et puis, elles n'ont pas eu le permis toutes les deux, elles n'ont pas travaillé, elles n'ont pas eu de vie autonome de leur mari. Le mari, j'ai une des grand-mères qui a passé son permis 5 fois, elle ne l'a jamais eu. Parce que son mari ne lui prêtait pas la voiture, et il avait peur qu'elle l'abîme. Voilà, c'est des histoires comme ça. Je me dis, les choses viennent petit à petit parce que du coup, c'est la génération de ma mère qui a passé le permis la première. Elle a vécu cette première prise d'autonomie. Et moi, quand j'ai passé le permis, c'était en 81. C'était l'année où il y avait autant d'hommes que femmes qui l'ont passé. Donc voilà, moi, j'étais à une génération, on va dire, charnière où on a vécu ce début de mixité, on va dire.
Et alors les préjugés, on les voit beaucoup à travers la publicité, les films aussi. À un moment donné, il est question d'un concours d'élégance des femmes avec leur voiture, enfin la voiture de leur mari sûrement.
Depuis que les voitures existent, elles sont associées aux femmes pour le côté glamour, vendeur, sexy. Et encore aujourd'hui, enfin moi j'étais filmée au salon de l'auto pour ce film. Vous vous souvenez peut-être de ce plan où on voit une mannequin qui, avec des talons vertigineux, qui se languit sur le capot d'une, je sais pas si c'est une Ferrari, avec une jupe fendue. Et ça existe encore. Ça, c'est pas une femme qui est là pour prendre le volant, hein. C'est une femme qui est là pour être sexy, pour attirer l'œil des hommes sur la voiture. Et donc, la publicité de tout temps a utilisé la femme plutôt comme ça qu'au volant. Hein.
Ouais. C'est vrai que vous parlez beaucoup d'autonomisation, d'autonomie de la femme vis-à-vis de sa vie qu'elle prend en charge. Et en même temps... La voiture continue à être un objet de domination ou de soumission finalement. Donc c'est très C'est très paradoxal comme, comme approche. Et finalement, comment on peut l'expliquer, même le comportement des femmes vis-à-vis de la voiture, puisqu'elles veulent s'émanciper, en même temps, elles restent dans une sorte de, d'entre-deux, finalement. Ce que vous en pensez?
J'ai pas fait d'études, on va dire, beaucoup plus précises que ça. Je suis pas sociologue, je suis pas historienne, donc je vais pas pouvoir parler au-delà de mon film. Mais ce que j'ai cru sentir, c'est que les valeurs dites féminines, on commence quand même à investir la voiture depuis que la femme conduit plus. C'est la sécurité, c'est-à-dire qu'une femme a peut-être imposé la notion de sécurité, par exemple pour les enfants, les ceintures, les choses comme ça. C'est l'écologie, mais jusqu'où, je ne sais pas. C'est peut-être assez superficiel encore aujourd'hui dans la culture de la voiture, hein, parce que quand on parle de voiture, écologie, c'est assez relatif. En tout cas, la sécurité est en train de s'accroître quand même. De manière assez importante sur les routes, surtout en France. Mais on observe aussi que les femmes privilégient toujours les petits modèles par rapport aux gros modèles des hommes. Enfin, ça va peut-être pas changer comme ça, hein. Non, je sais pas. Peut-être que la voiture va moins devenir quand même l'objet d'affirmation sociale, puisque maintenant on partage les voitures, que... Je pense qu'il va y avoir encore beaucoup de changements par rapport à cette culture-là.
Et puis, donc on parlait de la femme, donc objet dans la publicité autour de la voiture, et l'homme plutôt donc viril avec sa voiture qui séduit les femmes.
Ouais, j'ai trouvé une publicité, j'ai jamais pu la monter dans le film, hein, c'est une publicité allemande qui met en scène... Non, je ne peux pas la raconter à la radio, vous couperez parce qu'elle est trop dégueulasse. Le levier de vitesse servait à quelque chose. Et la publicité, c'était la voiture qui ne vous laissera jamais tomber. Et c'était une femme au volant.
Alors, ce que j'aime bien aussi dans votre film, c'est que donc vous n'oubliez pas non plus, enfin, effectivement, de dire que c'est aussi une construction. Les rapports hommes-femmes et puis la question du genre. On voit que l'éducation joue un rôle important avec les petits garçons qui ont leur voiture et les filles qui sont plutôt avec leurs poussettes et avec leurs poupées.
C'est vrai que là j'ai utilisé plutôt des images d'archives, on va dire amateurs des années 50 où effectivement on voit c'est plutôt les garçons qui squattent les voitures, même si les petites filles ont envie de les prendre. Voilà. Ouais, mais il y avait tellement de choses à explorer aussi dans les souvenirs d'enfance, dans tout ça.
En pleine Seconde Guerre mondiale, une riche américaine, Florence Conrad, ici en train de diriger ses troupes, recrute une vingtaine de jeunes ambulancières françaises. En 1940, elle met à disposition de la France libre ses puissantes Dodge et leurs conductrices. Elles sont accueillies très froidement.
Quand nous sommes arrivés avec nos ambulances, tout le monde était très sceptique sur la façon dont nous allons nous conduire pendant la campagne. Et les soldats ne nous épargnaient pas les allusions, disant « qu'est-ce qui va venir nous ramasser quand on sera blessé ?» Là, ça sera autre chose que de se promener en salopette et de faire semblant de conduire. Nous étions habillés exactement comme les soldats, avec des pantalons et une braguette, ce qui, à l'époque, faisait rire tout le monde qu'une femme porte une braguette. Maintenant, c'est devenu tout à fait commun. Tous les pantalons s'ouvrent avec une braguette.
Oui, c'était des costumes d'hommes, les plus petits. On mettait nos leggings, on avait des gros croquenots. Mais on était bien.
On nous a appris à changer les roues en croix, la gauche avant contre la droite arrière. Et c'était extrêmement difficile parce que c'était des roues énormes, assez grandes et extrêmement lourdes. On nous avait appris avec un système de levier comment se débrouiller. Je suis revenue avec des muses, le camionneur. Oui. Je me souviens qu'on me faisait un essayage de robe avec des petites épingles. Et puis j'ai fermé le bras. Toutes les épingles ont sauté.
Leclerc, à la tête de la 2e division blindée, accepte les ambulances, mais ne veut pas des conductrices. À l'époque, il est impensable qu'elle puisse diriger ses gros camions sous les bombes. Féministe de conviction, la mécène américaine impose les ambulancières. Le général, qui a un besoin vital des Dodge, les prend alors à l'essai et seulement jusqu'à Paris.
Les ambulancières d'avant-garde s'appellent les Rochambeau. Volontaires, comme les autres soldats, car elles mènent la vie du soldat. Elles sont responsables de leur voiture et subissent un entraînement militaire pour supporter l'existence du troupier. Madame Baudin en est à sa 4e voiture. Les 3 autres ont été détruites au feu. Madame Baudin a bien mérité sa croix de guerre avec Paris.
Après le débarquement en Normandie, puis la libération de Paris, elles poursuivent l'épopée jusqu'en Allemagne avec Leclerc, qui les a définitivement adoptées. Le retour à la vie civile ne va pas être simple.
J'étais totalement insolite, moi, après-guerre. Je ressemblais plus à aucune femme qui ne pensait qu'à leur bébé et au poids qu'ils prenaient en prenant le biberon. Et les hommes, très peu de Français avaient fait la guerre. Et quand ils voyaient mes décorations, eh bien, ça les mettait extrêmement mal à l'aise.
Puis on n'a pas parlé des Rochambeau aussi, qui sont des femmes fantastiques, enfin, que moi j'ai rencontrées. Bon, c'est assez court dans le film, là, l'entretien avec elles, mais j'ai retrouvé des archives, des ambulancières de la 2e DB. Leclerc a débarqué, avec lui, il avait des femmes ambulancières qui suivaient le front. Et au début, en fait, quand il a recruté les ambulanciers, il voulait des ambulanciers. Mais elles se sont présentées. Elles venaient notamment d'Afrique du Nord à l'époque et elles voulaient défendre la France. Et lui, il a refusé au début. Il a dit non, des femmes au volant, c'est pas possible, quoi. Et puis, je pense qu'il a peut-être pas trouvé assez de gens qualifiés. Et il les a prises à l'essai. Et elles ont débarqué en Normandie avec Leclerc. Et ça s'est tellement bien passé que Leclerc a décidé de les garder jusqu'à la frontière allemande. Et certaines même ont continué dans l'armée en Indochine avec ces gens-là. Et ce qu'elles ont fait, c'est assez incroyable pour l'époque, quoi. Elles se sont vraiment imposées par leur courage au volant. Elles ont bluffé les hommes. Mais le problème, c'est ce que l'une d'entre elles disait dans le film, c'est qu'une fois rendues à la vie civile, ces femmes étaient complètement décalées face à leurs amies qui, elles, ne parlaient que de pouponner et de couture et d'aller faire les courses. Et elles avaient vécu des choses tellement fortes au volant de leur camion ambulance qu'elles étaient complètement perdues, quoi. Mais elles, quand je les ai rencontrées, c'était la première fois qu'elles en parlaient vraiment. Elles ne faisaient pas ça par féminisme, voilà, elles faisaient ça par patriotisme. Hein, sauf que ça les a mis dans une position assez particulière.
Parce que donc, j'ai retrouvé donc, une archive sonore, une interview de Rosette Péchaud, donc une des ambulancières qu'on voit dans votre film. Et moi, je la trouve quand même assez... Alors, je sais pas, peut-être qu'en tout cas, au niveau du genre, elle rentre pas dans les critères de la féminité.
Oui, c'est vrai, mais elle avait un côté très brut de décoffrage, on va dire. Mais je pense que... Je sais pas de quel milieu elle venait. Je crois que c'était un milieu pied noir, assez aisé. C'est vrai que... Je pense qu'elles ont vécu une aventure assez incroyable aussi. Hein. Donc ça a dû vraiment les dessaler, je sais pas.
Et du coup, ce qui est intéressant effectivement dans ce film, c'est que donc vous avez cherché des héroïnes au volant. Enfin, en tout cas, donc ça commence dès 1898, donc avec la duchesse d'Uzès.
Donc qui était. Alors, les deux premières femmes qui ont fait parler d'elle au volant en France, c'est elle, la duchesse d'Uzès, et Camille Crespin-Dugast, qui était une aventurière, qui faisait des courses de voitures, et une très belle femme aux yeux verts. Alors, toutes les deux étaient veuves et fortunées. Voilà, c'est vraiment le signe qu'il ne fallait pas qu'il y ait d'hommes ayant autorité sur ces femmes pour qu'elles puissent conduire. Quoi. C'est, les femmes qui conduisaient, c'était vraiment des femmes qui n'avaient pas de bride, hein, parce que c'était vraiment très, très provoquant, je crois, hein, à l'époque.
Et alors, il y a une autre femme, Violette Maurice, dont on parle un petit peu, qui a été, elle, ambulancière, je crois, pendant la Première Guerre mondiale, et bon, qui a eu une histoire un peu particulière.
Donc, oui, elle n'est pas la seule. Hein. Première Guerre mondiale aussi, il y a eu des ambulancières, sauf que là, je n'avais pas d'image d'archives, contrairement au Rochambelle de la deuxième DB. Par exemple, Gertrude Stein et Alice Toklas, son amie, ont été ambulancières pendant la Première Guerre mondiale. J'ai retrouvé les traces du permis qu'elles ont passé à la préfecture de Paris, etc. Et alors, Violette Maurice faisait aussi des courses de voitures. Hein, voilà. Un peu comme Camille Crespin-Dugast, mais on va dire beaucoup plus masculine. Ouais.
Et après, vous parlez donc d'héroïnes plus récentes, comme Michel Mouton, et qu'on voit très peu et qui avait une allure très extrêmement féminine dans les rallyes automobiles dans les années 70-80. C'est assez.
Oui, elle énervait les hommes, hein, parce qu'elle gagnait des courses. Et en plus, elle a vraiment un look, enfin oui, elle est très belle, petite brune, très très piquante. Alors moi, je ne la connaissais pas. Je l'ai appelée, hein, mais elle n'a pas voulu témoigner dans le film parce qu'elle ne veut pas se positionner en tant que, on va dire, féministe. Mais bon, j'ai cru comprendre quand même que ça n'avait pas été simple pour elle. À part ça, je pense qu'elle était très proche de son père qui lui-même était dans le milieu des courses automobiles. Donc c'est un peu ça qui l'a, on va dire, protégée dans le milieu. Mais encore aujourd'hui, il y a très peu d'équipage féminin en Formule 1. Hein. Regardez, je crois qu'au dernier 24 heures du Mans, il y avait juste une seule femme.
Et du coup, finalement, vous n'avez pas fait le choix, ou alors c'est peut-être le hasard, vous n'avez pas rencontré beaucoup d'héroïnes, en fait, qui vous ont raconté cette histoire. Enfin, en tout cas, il y a une autre femme qui a passé son permis à 25 ans dans les années 50, qui a interviewé. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui faites l'interview ou une jeune fille.
C'est une femme de ma famille, hein, qui raconte ça à... Alors, je l'ai construit un peu parce que tout le monde pense que c'est ma grand-mère et que c'est ma fille qui l'interviewe ou ma mère et ma fille. Enfin bref, c'est pas tout à fait ça dans la réalité, mais peu importe parce que c'est ça que j'avais envie de faire passer dans le sentiment, c'est-à-dire la mémoire. Moi, j'ai plus mes grands-mères, mais la mémoire de ces femmes qui ont osé passer le permis à une époque où on rigolait d'elles, quoi. Parce que on leur accordait aucun crédit, on avait tout le temps peur qu'elles cassent les voitures, on se moquait d'elles, alors peut-être qu'elles conduisaient aussi très mal, hein, c'est une possibilité. Apparemment, d'après ce qu'elles disaient, c'était vrai, quoi. Elles passaient la première à la troisième directement. Mais on leur donnait pas trop crédit, quoi. Faut dire qu'à l'époque, fallait du muscle, hein, quand même, hein, aussi. Ouais, c'était pas simple.
Alors, à travers les archives, on rencontre aussi des femmes qui ont été un peu avant-gardistes dans leur métier. Il y a effectivement des reportages d'époque. Et en 1977, donc, il y a une femme conductrice de bus qui est interviewée par un homme. Donc voilà, je trouve que c'est un épisode assez intéressant dans le film.
Les conducteurs mâles ont beau défendre leur précaré avec la dernière énergie, les conductrices investissent de nouveaux bastions. Les camionneuses, chauffeuses-livreuses, conductrices de bus, de taxi ou de tracteur s'installent dans le paysage. Elles sont filmées comme de curieux phénomènes
par des journalistes qui s'inquiètent pour leur féminité.
Marie-Josée, bonjour.
Bonjour.
Moi, vous me paraissez bien jeune pour conduire une grande machine comme ça. Vous avez quel âge ?
J'ai 18 ans.
Mais c'est pas un peu dur pour une jeune fille ?
Non, c'est presque amusant.
Alors à l'âge où les jeunes filles vont au bal ou pensent à d'autres choses.
Ah mais j'y vais aussi.
Ah ça n'empêche, l'un n'empêche pas l'autre.
Ah non, non.
Car il faut bien le dire, vous êtes femme routière. Ah, on oui, dit routière ou routier ? Routier,
oh,
je crois.
Oh ma foi.
Il n'y a pas de féminin.
On n'en parle pas, c'est...
Vous n'avez jamais de regrets de cette vie ? Vous n'avez envie d'être une femme qui se promène dans les magasins, qui fait des
choses. Ah, mais ça m'arrive de temps en temps, ça m'arrive.
Dites-moi, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce métier-là ?
Mais il y en a, oui, c'est vrai. Je crois qu'on en voit de plus en plus.
Madame, vous travaillez à la RATP ?
Oui, monsieur.
Et comment se fait-il que vous soyez en pantalon ? C'est interdit pour les receveuses.
Mais je ne suis pas receveuse, monsieur, je suis machiniste.
Vous êtes machiniste depuis combien de temps ?
Depuis le 5 mai 1961.
Il y a beaucoup de femmes machinistes à la RATP ?
Nous sommes une trentaine.
Monsieur ?
Comment ?
Vous êtes mécanicien ?
Oui, monsieur.
Il a été conduit par une femme, cet autobus ?
Oui, madame, monsieur.
Et il est mal en point,
non ? Non, ça va très bien.
Les femmes conduisent aussi bien que les hommes ?
Oh oui, ils font autant attention.
Elles cassent rien ?
Non, ils s'accrochent de temps en temps, comme les autres, mais pareil.
Et quels sont vos rapports avec vos collègues masculins ?
Eh bien, les collègues masculins, alors là, voyez-vous, c'est autre chose. Je crois que... on ne peut pas dire qu'ils sont jaloux. Non, c'est pas vrai. Mais ils sont un petit peu complexés. De voir qu'une femme peut faire le même métier qu'eux, voyez-vous. Alors, quand ils nous voient au volant, ils se disent, voilà, nous plaignons que nous sommes fatigués, et puis voilà, un minus, ça traîne une bagnole 10 heures par jour. C'est pour ça que de temps en temps, ils se font un plaisir de nous envoyer raccommoder nos chaussettes.
Et 10 ans après, en 1977, les questions sont toujours les mêmes. Mais les réponses, elles, moins diplomatiques.
Pourquoi avoir choisi ce métier ?
Parce que... comme c'était un métier d'homme, c'était automatiquement mieux payé que... les métiers de femme et que j'en avais assez d'être payée 1400, 1500 francs par mois. Et là, c'est payé 3100. Parce que souvent, moi, j'ai des petits heurts avec mes collègues masculins parce que ils disent que je me traîne et tout et que... Des fois, il y a des hommes, ils se mettent là à côté pour me dire comment il faut conduire. Dépasser à droite, dépasser à gauche, c'est vert, c'est rouge. Je fais pas très sérieux, quoi. Et alors, ils me parlent comme si j'avais 4 ans. Ils disent, oh, la grande fifi qui conduit son gros bus.
Vous êtes célibataire ?
Oui.
Sans enfant ?
Sans enfant.
Comment ça va se passer si un jour vous êtes mariée avec des enfants ?
D'abord, je pense pas que je vais me marier. J'ai pas envie, quoi. J'ai pas envie, par exemple, de changer de nom. Pourquoi est-ce que je changerais de nom ? J'ai pas envie de changer de nom. J'ai pas envie de... plein de choses, quoi. Et puis...
Quoi encore ?
Ben, d'être la bonne à un mari, quoi.
Je crois que c'est en 1977, c'est une archive INA, donc les actualités de l'époque, je pense que c'était TF1, qui faisait un sujet, un énième sujet, j'allais dire, sur ces femmes conductrices. Ça paraissait encore assez exotique à l'époque, et elles conduisaient un autobus parisien. Et l'interview est assez extraordinaire, parce qu'elle est interrogée en train de conduire, et le type lui demande « Mais pourquoi vous avez choisi ce métier-là » Et elle répond avec un aplomb incroyable, digne d'une post-68arde, bah, « Parce que c'est beaucoup mieux payé, parce que c'est un boulot de mec. Et moi, j'ai envie de gagner ma vie. Et en plus, plus tard, je ne veux pas me marier.